Peut-être qu'il n'y a que moi qui suis en retard dans cette salle. De temps en temps, oui, effectivement, c'est donc ça. Mais imaginons, alors, si vous n'avez jamais été en retard, imaginez un peu. Imaginez qu'un matin, vous êtes en retard au boulot. T'es en retard au boulot, il fait froid dehors, le pare-brise est gelé. Alors tu grattes vite fait un petit carré juste devant la place conducteur. Non, tu ne le fais jamais. Ça, c'est aussi, c'est que moi. En te disant, ça suffit, c'est largement suffisant pour pouvoir conduire. Tu démarres la voiture, et à peine sorti de chez toi, premier carrefour, t'as pas vu arriver le motard sur la gauche. En même temps, ta vitre est complètement gelée. Le choc est inévitable. Mais en même temps, ton champ de vision était partiel. Ton appréciation de la situation était partielle. Alors le choc est inévitable. Alors la question que je voudrais nous poser ce matin, elle est simple et elle nous concerne tous. Quelle est notre compréhension de l'Évangile ? Est-ce qu'elle est partielle ou est-ce qu'elle est totale ? Est-ce que comme Ryan, Ivana, Florentin, on s'est déjà positionné face au message de l'Évangile ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on connaît l'Évangile superficiellement ? Ou est-ce qu'on comprend vraiment l'enjeu dans sa totalité ? C'est une question qu'en fait même les disciples de Jésus, il y a 2000 ans, ils se sont posés. Ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont mangé avec lui, ceux qui l'ont vu guérir et enseigner, ils ont à un moment donné de leur chemin avec Jésus, choisi de ne pas rester sur une compréhension partielle et superficielle de l'Évangile, pour comprendre pleinement qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait. Alors ce matin, pour marcher à la suite des disciples, et pour ne pas rester dans une compréhension partielle de l'Évangile, je vais nous inviter à la rencontre des disciples, à la rencontre de Jésus. Et en ouvrant la Bible, on va lire un passage dans l'Évangile de Marc, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, chapitre 8, et on va prendre les versets 22 à 23, mais bien sûr, ils seront tous affichés pendant que je les lis. Donc, Évangile de Marc, chapitre 8, les versets 22 à 23, et je commence à lire dans la version Bible du Semeur. Ils arrivèrent à Bethsaïda, les disciples. On amena un aveugle à Jésus, et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains, et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Alors l'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village !» Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée et de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je, d'après eux ?» Ils lui répondirent. « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors il leur demanda. « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit. « Tu es le Messie !» Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme, un titre que Jésus se donnait à lui-même, devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan ! Éloigne-toi de moi ! Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Toutes humaines. Je vous propose d'avancer dans notre texte en suivant 3 points. Premier point, on verra une guérison étonnante. Deuxième point, un instant de clarté. Troisième point, l'Évangile n'est pas une idée floue. Une guérison étonnante. Alors ce passage qui est peut-être familier à certains d'entre vous, peut-être qu'il est tout nouveau pour d'autres, commence par une scène tout à fait étonnante. La guérison d'un aveugle. C'est pas le fait qu'il y ait une guérison qui soit étonnante, des épisodes où Jésus guérit, Jésus fait des miracles, on en rencontre plein dans les quatre évangiles. Non, ce qui nous pose question à nous lecteurs, ce qui nous rend un peu sceptiques, pourquoi Jésus s'y prend à deux fois pour complètement guérir cet aveugle? Est-ce que Jésus a raté la première fois? Est-ce que finalement la puissance miraculeuse de Jésus, elle est insuffisante? Alors si ce texte est le premier texte que vous lisez dans le Nouveau Testament, peut-être vous vous dites, c'est lui Jésus? C'est ça le Fils de Dieu? Ouais. Un pseudo-guérisseur qui met sa salive sur les yeux des gens? Ça me fait penser à ça. La toute première fois que j'ai vu ce tableau, quelqu'un connaît ce tableau? Guernica, ouais. J'étais au collège. Je ne connaissais pas du tout le peintre qui avait peint ce tableau, ni son œuvre. Alors mes premiers mots ont été « Mais il ne sait pas dessiner. Ça ressemble à rien, ça. On ne comprend rien sur le tableau. » Alors on m'a dit « Doucement, tu parles de Picasso. » Et quand on m'a montré d'autres œuvres qu'il avait peintes, alors là j'ai compris qu'à travers sa technique de peinture, à travers des dessins particuliers, il voulait faire passer un message, il voulait transmettre autre chose. Et bien quand on voit Jésus guérir cet aveugle en deux étapes, d'abord il lui rend partiellement la vie, et puis de manière complète dans un deuxième temps, en fait comme pour Picasso, si on a lu les sept premiers chapitres de l'évangile de Marc, on sait que Jésus, par une simple parole, il est capable de tous les prodiges, calmer la tempête, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, en un mot seulement. Et donc si Jésus guérit en deux étapes, c'est pour transmettre quelque chose de particulier. Jésus a guéri l'aveugle de manière partielle. D'abord, il a vu des silhouettes floues en forme d'arbre. Et puis, il l'a guéri de manière complète, pour que l'aveugle voie de manière claire et nette. Et bien, de la même manière, après avoir guéri cet homme, Jésus se tourne vers ses disciples et met en lumière qu'avant d'avoir une compréhension claire de l'évangile, ils ont d'abord eu une compréhension partielle, floue, de Jésus et de l'Évangile. Autrement dit, le progrès visuel miraculeux qu'a vécu cet aveugle devient le miroir du progrès des disciples dans leur compréhension de la venue de Jésus et de son œuvre. Et ça nous amène à un instant de clarté vécu par les disciples, vécu par Pierre. Deuxième point, un instant de clarté. Si on avance un peu dans notre récit, après la guérison de l'aveugle, Jésus veut savoir où en sont les disciples. Dans leur compréhension de qui il est, de qui est Jésus, et de ce qu'il va faire. Alors Jésus pose deux questions. Première question, verset 27. Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Et quelle est la réponse des disciples? Jean-Baptiste, tout juste décapité par le roi Hérode. Élie, un prophète de l'Ancien Testament, ou d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Et si la question nous était posée en 2025, qu'est-ce que les gens disent au sujet de Jésus? Qui est-il d'après eux? Ce serait intéressant. Ça a été fait il y a 3 ans, dans un contexte assez particulier. Pendant la présidentielle 2022, le magazine Mission titrait son nouveau numéro « 9 candidats à la présidentielle face à Jésus ». Le magazine recueillait les propos de candidats à la présidentielle à propos de Jésus. Jean-Luc Mélenchon, Jean Lassalle, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et d'autres. 9 candidats. Je vous lis quelques phrases qui ont été prononcées par ces candidats. « Jésus est celui qui incarne la réussite, le Jésus entrepreneur. » Jésus, c'est mon petit frère. Jésus, c'est celui qui prend le risque du pardon. Jésus était un immense rabbin. Jésus me touche par son amour déraisonnable. Alors finalement, aucun des candidats n'a osé critiquer Jésus. Ce qui est ressorti, c'est que Jésus, c'est un humaniste. C'est un représentant de la démocratie. C'est un pacifique. Alors on se dit, il n'y a rien de négatif, rien d'offensant. Et quand la foule pense que Jésus est Jean-Baptiste, Élie ou un prophète, on se dit qu'il n'y a rien d'offensant. Mais en fait, si. Parce qu'on est très très loin de la vérité. Et ce n'est pas la réponse que Jésus attend de ses disciples. C'est pour ça qu'il va aller plus loin. Et là, il leur pose la question à eux. D'accord, les foules pensent ça. Mais vous, maintenant, vous, qui dites-vous que je suis ? Et alors là, à cet instant, au verset 29, Pierre, certainement en parlant au nom de tous les disciples, vit un instant de clarté et reconnaît que Jésus est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Et c'est un moment décisif parce que c'est la première véritable confession de foi de Jésus-Christ, de l'histoire. Comme l'aveugle du début de notre texte, Pierre vit un instant de clarté parce que Jésus lui a ouvert les yeux. Tu es le Messie, tant attendu par les prophètes, tant annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais on va voir que dans la suite du texte, la compréhension de qui est Jésus et de ce que Jésus doit accomplir, en fait, elle reste partielle. Parce que la conception que se faisait Pierre et les autres disciples du Messie, elle était influencée par l'époque. À cause de l'échec de la royauté juive entre 500 et 600 ans avant Jésus-Christ. Du coup, les Juifs, ils attendaient un roi politique, un roi militaire qui allait vaincre l'ennemi. Mais certainement pas quelqu'un qui, comme Jésus va dire, allait souffrir. Et nous alors ? Est-ce que si, comme pour les disciples, Jésus nous posait la question « Toi, qui dis-tu que je suis ?» Si un magazine sortait demain, une centaine de personnes présentes à l'église de Farmoutier le 16 novembre 2025 face à Jésus, qu'est-ce qu'on pourrait lire ? Qui est Jésus ? Un guérisseur ? Un médecin qui guérit toutes les maladies ? Un Messie qui vient pour arrêter les guerres dans le monde ? Un Messie qui vient militer pour la défense du climat ? Un Messie qui vient rétablir des règles éthiques pour notre pays. Est-ce que parfois on a l'impression de voir Jésus un peu comme une silhouette floue ? Ou est-ce qu'on est capable de tenter une réponse à cette question ? Qui dis-tu que je suis ? Une réponse qui peut changer le chemin de notre vie à jamais. Une réponse qui a changé le chemin de Ryan, le chemin d'Ivana, le chemin de Florentin à jamais. Alors pour nous aider à tenter une réponse, on peut s'appuyer sur cette affirmation. L'Évangile n'est pas une idée floue. Troisième point, l'Évangile n'est pas une idée floue. Si on continue le récit, versets 31 et 32, Jésus nous aide à comprendre qui il est et ce qu'il va faire. Il est le Messie. Pierre a raison. Les disciples ont raison. Le Messie annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ? Je lis le verset 31. « Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme, donc un titre que Jésus se donnait en référence à des passages de l'Ancien Testament, devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. » Jésus est pleinement conscient des souffrances qui l'attendent. Pour lui, c'est inéluctable. Je viens de dire le verset 31. « Il devait souffrir. » Il devait être rejeté. Il devait être mis à mort. En fait, au cœur de la bonne nouvelle du Messie annoncée par les prophètes, il y a la croix. Et Jésus, il veut enseigner ses disciples sur ce qu'il attend. D'ailleurs, cette annonce, l'enseignement que va donner Jésus, qu'il doit souffrir, être rejeté et mourir, ce qu'on appelle plus communément la passion, il va continuer à l'enseigner tout le long des 8 prochains chapitres de l'Évangile de Marc. Pour amener la compréhension partielle des disciples à une compréhension plus profonde, plus totale de pourquoi il est venu. Parce que pour le moment, on voit bien à travers la réaction de Pierre qu'il y a quelque chose d'impensable pour lui. C'est impensable que le Messie attendu souffre et meure. Je crois que Pierre, il surestime sa propre vérité. Il surestime sa propre vérité concernant l'identité du Messie et l'œuvre du Messie. Et du coup, la surestimation de sa vérité empêche Pierre de comprendre l'Évangile comme le plan de Dieu pour l'humanité. La surestimation de la vérité de Pierre l'empêche de pouvoir, ne serait-ce qu'imaginer que Dieu lui-même puisse s'incarner parmi les hommes, souffrir, mourir sur une croix, afin que les péchés de ceux qui auront foi en lui soient pardonnés. C'est pas comme ça que Pierre imagine son sauveur. Et est-ce que c'est pas la même chose pour nous, notre surestimation de la vérité? La surestimation de notre propre vérité qui bloque notre compréhension de qui est Jésus. Est-ce que c'est pas nos préjugés qui ternissent notre foi finalement? Quelle pourrait être la surestimation de notre vérité à nous, ce qu'on imagine? Dieu, il est bon. Pourquoi la souffrance? Le péché, donc la désobéissance envers Dieu, le fait d'être son propre Dieu, qui a conduit à la séparation d'avec Dieu. En fait, tout ça, c'est pas si grave. Parce que Dieu, il est au-dessus de tout ça. Et moi, je suis quelqu'un de bien. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment une seule vérité? Il n'y avait pas besoin de sacrifice physique. Le vrai sacrifice de Jésus, c'est une vie menée pour Dieu. En fait, quand on surestime nos propres vérités, quand on refuse le besoin de souffrance, de mort de Jésus pour le péché du monde, la conséquence, c'est qu'on sous-estime le péché. Il n'y avait pas vraiment besoin que Jésus meure, parce que finalement, le péché n'est pas si grave. Parce que Dieu est bon, après tout, et moi aussi. Pourtant, une compréhension plus complète de l'Évangile nous amène à comprendre que dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a la croix. Il y a le sacrifice de Jésus à la croix, donné gratuitement pour des pécheurs. La bonne nouvelle, c'est que l'extrême gravité du péché qui nous sépare du Créateur de l'univers, elle est vaincue à la croix. C'est la grâce de Dieu. Et pour cela, il a fallu que Jésus souffre, meure et ressuscite. Voilà l'Évangile, la grande œuvre de réconciliation. C'est un peu comme ce bon feu de cheminée. Ceux d'entre nous ici présents qui diraient en voyant cette photo, c'est un feu de cheminée, auraient une vision partielle de ce qu'est un feu de cheminée. Vous allez me dire pourquoi, parce que c'est quand même un feu de cheminée. Eh bien, malgré le fait que ce feu de cheminée soit très beau, regardez ses flammes, il est apaisant, il est satisfaisant, il est réconfortant. En fait, un feu de cheminée, c'est pas ça. Parce qu'un feu de cheminée, ça produit de la chaleur. Est-ce que ça produit de la chaleur, une photo de flamme? Non. Dans un feu de cheminée, on peut entendre les braises qui crépitent. Vous entendez des braises, là? Non. Ici, c'est qu'une image d'un feu de cheminée. Et donc, on ne peut pas considérer seulement cette image si on veut comprendre dans son ensemble ce qu'est un feu de cheminée. Jésus est le Messie. C'est vrai. Et il doit souffrir et mourir pour accomplir la bonne nouvelle de l'Évangile, le pardon des péchés. Toutes les fois où nous nous sommes détournés du Dieu unique, pardonnés, réconciliés avec Dieu. Et si on voulait vérifier maintenant, si on voulait vérifier que les disciples, que Pierre, lui, il a fini par avoir une bonne compréhension de l'Évangile, puisqu'il a quand même fait des reproches à Jésus quand il a appris que Jésus allait mourir. Mais il faudrait aller voir de qu'est-ce que Pierre a écrit par la suite, bien après la mort et la résurrection de Jésus. Je vais vous lire ce que Pierre a écrit bien après la mort et la résurrection de Jésus et qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Voilà ce que dit Pierre. « C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas à l'injure. » Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Et là, Pierre dit, « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. » L'Évangile n'est pas une idée floue. C'est l'annonce puissante que le Messie est venu, qu'il a souffert, qu'il est mort et ressuscité. pour que chacun puisse vivre la réconciliation avec son Créateur. Aujourd'hui, Ryan, Ivana et Florentin ont déclaré publiquement « Oui, je crois ! Oui, Jésus est mon Sauveur !» Alors, ma prière, c'est que leur engagement soit comme un appel pour nous tous à ne pas rester dans une compréhension partielle de l'Évangile. Et je vais juste prier pour finir. Notre Dieu, notre Père, c'est ma prière. Que notre compréhension de l'Évangile ne reste pas partielle et superficielle. Seigneur, montre-nous Jésus. Montre-nous son œuvre, son Évangile. Viens toucher nos cœurs. Et Seigneur, on ne peut être que reconnaissant pour une telle gratuite qu'on n'a pas méritée, qu'on n'a pas obtenue par nos œuvres. C'est toi qui t'es incarné en Jésus-Christ, qui a foulé la terre, qui est venu mourir sur un bois, sur une croix, pour que nos péchés soient pardonnés, pour qu'on soit réconcilié avec toi, pour que je puisse ce matin te prier, avoir une relation avec toi. Merci Seigneur, parce que tout ça c'est par grâce. J'ai prié au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen.